Loire Mag, le podcast. Chaque mois, RCF, en partenariat avec le département, vous propose de partir à la découverte des femmes et des hommes qui font vivre notre territoire ligérien.
Bonjour, pour notre dossier de ce mois d'avril, je vous invite à la suite de la découverte de la filière bois. Nous rencontrerons Aline Duverger, architecte et présidente du syndicat interprofessionnel Fibois 42. Et puis, comment aller vers plus d'accueil de l'autre, sans agressivité ni a priori, et ainsi éviter les attitudes et événements racistes? Eh bien, ce sont les missions de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. La section stéphanoise a changé de présidente récemment. Philippe Loire a rencontré pour nous Florence Boutussier. Autre engagement aux côtés d'autrui, l'association Aide Soutien Partage à Saint-Chamond, qui apporte depuis plus de 40 ans une aide d'urgence aux personnes démunies. Coup de projecteur sur ses bénévoles avec Lucas Laubert. Enfin, être au milieu des planètes, des constellations et autres comètes, c'est possible avec le Planétarium de Saint-Étienne. À quelques jours des vacances scolaires de printemps, Clément Bonsignor nous donne envie de nous rendre sous ce dôme magique pour voyager dans l'espace et le temps.
Loire Mag, le dossier.
Fibois est un syndicat interprofessionnel présent d'ailleurs dans chaque département français, également au niveau régional, donc en Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui nous concerne. Aline Duverger, architecte et la présidente de Fibois 42 à la suite de Jean-François Chorin, lui-même scieur et conseiller départemental délégué à la filière bois. Elle nous rappelle les objectifs de cette interprofession liée à la forêt dans la Loire et nous évoque le produit Pablo, imaginé par Fibois 42 et l'entreprise Béal, pour une meilleure utilisation du bois en matière acoustique. Aline Duverger.
Fibois 42, c'est une association interprofessionnelle qui réunit tous les acteurs de la forêt volontaire pour adhérer à cette association. Ils vont depuis le planteur d'arbres, le bûcheron, le scieur, tous les gens de la menuiserie, de la charpente, du design, jusqu'aux architectes et aux ingénieurs bois. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à nous aider, nous entraider, nous informer, nous former, c'est-à-dire à être des acteurs économiquement vivaces sur cette question, parce que, bien vous le savez, la Loire est un territoire forestier à plus de 30%, 33%, et ces métiers sont tous interdépendants d'un produit qui est naturel et qui n'est pas un produit industriel, c'est-à-dire il faut savoir où aller le chercher, il faut savoir comment il peut être de bonne qualité et comment l'entretenir. Enfin, c'est quelque chose d'assez subtil, l'utilisation du bois, qu'il faut travailler ensemble. Et c'est l'objectif de la filière, c'est d'avancer tous ensemble vers une filière économique intéressante.
Cette collaboration, cette interdépendance, est-ce que ça a fait développer le milieu de la filière bois, Aline Duverger?
Oui, c'est un milieu qui bouge beaucoup. Fibois 42 a 40 ans cette année. Et dans ces 40 années, effectivement, ça a beaucoup évolué. On est obligé de se tenir à jour de toutes les normes, et de toutes les technicités qui concernent le bois. Ça a aussi beaucoup évolué parce que le bois est maintenant un partenaire indispensable de la construction et de l'éco-environnement. Les enjeux, c'est que le territoire doit être bien géré, que ces forêts doivent être durables et qu'elles doivent être aussi partagées avec le grand public. Économiquement, il y a de plus en plus d'utilisation du bois et que ce bois, eh bien, il faut qu'il soit utilisé à bon escient et qu'il soit utilisé pour nous, ce qui est important, localement. Nous avons sur le département des bois qui sont de très bonne qualité pour la charpente, un peu moins pour la menuiserie. Ces bois, il faut aller les chercher à proximité pour faire des projets ici. Donc nous avons aussi comme rôle d'informer le public pour leur expliquer comment on peut utiliser ce bois local et de quelle façon.
La Loire, vous l'avez dit, est forestière à plus de 30%. Il y a des essences que l'on retrouve plus particulièrement. Quelles sont-elles?
Alors, l'épicéa est un arbre de construction, de bâtisseur qu'on connaît depuis longtemps, mais la Loire a aussi des feuillus qu'on utilise assez peu parce qu'on a peu de scieurs pour scier le feuillu. Et surtout, on a une essence qui est très importante et majoritaire qui s'appelle le sapin blanc. C'est un bois qui est un très bon bois de construction. Et nous avons développé en fait toute une réflexion sur comment utiliser mieux ce sapin blanc dans le bâtiment. Depuis 2 ans, on travaille à un projet qui s'appelle Pablo, Ce projet, c'est pour utiliser le sapin blanc en intérieur dans des complexes acoustiques parce qu'on s'est aperçu depuis longtemps qu'on utilisait le bois à l'intérieur avec des qualités, on va dire, d'ambiance, des qualités de chaleur qui plaisaient aux gens. Et nous aussi, les architectes et les ingénieurs, on l'utilisait pour faire des mailles acoustiques. Et ces mailles acoustiques, on les utilisait jusqu'à présent de manière un peu artisanale et on ne savait pas en justifier les performances. Donc depuis 2 ans, Fibois s'est attelé avec un certain nombre de professionnels, menuisiers, ingénieurs du son, acoustiques, ingénieurs bois, à définir plusieurs petits parties pour construire acoustiquement des habillages et qu'ils soient, on va dire, labellisés, c'est-à-dire qu'on connaisse leurs performances et qu'elles puissent être données pour construire en marché public. Nous, architectes, par exemple, on construit souvent en bois, entre autres des écoles. Et dans les écoles, l'acoustique, on va dire que c'est le point crucial, hein, surtout en maternelle, plus c'est aigu, plus c'est compliqué. Les salles de restauration, c'est un univers très compliqué. Et c'est important qu'on ait des produits qui soient qualitativement répertoriés et qu'on sache où on allait. Donc ce produit est maintenant en place, Pablo. Et donc on peut, en étant adhérent de Fibois, eh bien, obtenir les éléments pour l'utiliser de cette manière-là, soit en venant volontairement travailler avec nous sur ce thème.
Dernier élément, Aline Duverger, Fibois, 42 à 40 ans cette année.
On va essayer de valoriser toutes nos innovations et toutes nos actions sur 40 ans pour montrer un peu le développement de notre pensée, de notre action sur le territoire et essayer de se projeter vers demain avec toute cette assise qui est aussi une assise humaine. Parce que, par exemple, pour moi, architecte, j'ai beaucoup reçu de Fibois 42. J'ai appris ce qu'était un arbre en forêt, j'ai appris comment on choisissait entre plusieurs bois sortis de Syrie. C'est un lien qui se fait par l'humain, parce que ce matériau, n'étant pas industriel, il est chaque fois différent. Et cette compréhension du matériau, bien, elle m'a été transmise par d'autres personnes. Et dans l'interprofession du bois, dans Fibois 42, on essaye beaucoup de maintenir ce lien entre les gens qui connaissent bien les bois, ceux qui les utilisent, ceux qui les transforment, ceux qui les habitent. Ce lien, il est très important pour avancer.
Loire Mag, le podcast au cœur de la vie de notre département de la Loire.
Les Restos du Cœur constituent sûrement l'association pour l'aide alimentaire d'urgence la plus connue en France. Mais localement, il existe aussi des structures qui interviennent auprès des personnes n'ayant plus les ressources de première nécessité. L'association Aide Soutien Partage à Saint-Chamond est justement engagée aux côtés de ces personnes depuis plus de 40 ans. Luc Allobert est allé à la rencontre des bénévoles qui s'y impliquent avec autant de dévouement qu'au début de l'association et il s'y est rendu au moment de la préparation des colis.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve ici à Saint-Chamond, à l'association Aide Soutien Partage, pour parler de votre association, et pour ça je suis avec la présidente de cette association, Marie-Thérèse Escoffier, et la trésorière, André Verset. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
On va commencer par le tout début, Aide Soutien Partage, qu'est-ce que c'est ?
Aide Soutien Partage, c'est une association qui a été créée en 1984 pour venir en aide aux familles les plus démunies. Il y a une petite cinquantaine de membres, pratiquement tous des personnes retraitées. Donc nous confectionnons des colis alimentaires complets pour des familles qui nous sont signalées par les assistantes sociales et nous portons à domicile ces colis qui sont anonymes et nous portons dans toute la vallée du Gier, le Pélucinois,
les Côtes du Gier.
Alors ces colis, comment ils sont faits ? On voit derrière que ça s'active un petit peu pour préparer ces colis. Quelle est toute la logistique derrière ?
C'est des colis complets, donc il y a de l'épicerie, tout ce qu'il faut pour une semaine. Il y a des produits frais, il y a du congelé et des légumes.
Vous vous approvisionnez comment ?
Alors on va tous les vendredis à la banque alimentaire, donc avec le camion du panier Coramio, qui nous le prête gracieusement. Et on rapporte ce qu'ils nous donnent à la banque alimentaire.
Alors une fois que vous avez été chercher tous vos produits à la banque alimentaire, vous revenez ici avec tous les produits. Et là maintenant, c'est l'heure de la préparation des colis.
Oui, mais on complète nos colis en achetant par exemple à Leclerc ce qui nous manque de la banque alimentaire.
Et ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est qu'Aide Soutien Partage, ça existe même depuis plus longtemps que les Restos du Cœur en fait.
Tout à fait.
Le Resto du Cœur 85, je crois. Mais nous, décembre 84.
Ouais. Donc c'est vraiment une association qui est peut-être un petit peu emblématique d'ici. Enfin, en tout cas, qui est vraiment implantée sur le territoire et qui aide les gens depuis très longtemps.
On a commencé dans un garage.
Belle évolution depuis.
On a commencé dans un garage, après dans différents locaux, chez les uns, chez les autres, rue des Forges, rue Alsace-Lorraine et maintenant rue Bonneviale.
Alors une fois que tous les colis qu'on voit derrière là sont préparés, qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez les donner aux gens?
On les porte à domicile et donc on a combien? Une dizaine de porteurs?
Oui. Une dizaine de personnes qui se sont engagées à prendre les colis ici et à les porter dans les familles.
Donc ils vont faire toute une tournée pour aller les donner jusqu'aux personnes.
Voilà, on les porte à domicile. Mais avec le Covid, on ne rentre plus chez les gens, on s'arrête devant l'allée et on leur dit de venir chercher.
Il y avait plus de partage avant avec les personnes que vous aidiez?
C'était plus facile.
Ouais.
C'était plus facile. On arrive à discuter sur le trottoir, quoi, mais ça ne peut pas durer bien longtemps. Avant, on discutait plus.
Pourtant, c'était votre rôle avant, un petit peu plus, seulement d'aider les gens pour la nourriture, mais aussi de les aider moralement.
Ouais. On a eu des beaux messages de personnes qu'on a aidées et qui nous ont dit merci de m'avoir parlé, quoi.
Alors maintenant qu'on en sait plus sur Aide Soutien Partage et sur ce que fait l'association, on va partir à la rencontre des petites mains qui s'activent en coulisses pour préparer les colis alimentaires.
Bonjour.
Bonjour. Je vous dérange pas, vous êtes en pleine préparation.
On est en train de faire des colis.
Vous êtes en train de faire les colis. Qu'est-ce qu'il y a dans ces colis?
Alors là, c'est les produits frais. C'est-à-dire les yaourts, les produits laitiers, et puis la viande,
les salades.
Alors comment vous vous organisez? Vous avez votre petite liste des produits à fournir à chacun?
Voilà. Alors ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que vraiment c'est anonyme. Vous voyez, les personnes qui sont là font les colis, mais ils ne savent pas le nom des personnes.
On ne connaît pas les gens.
D'accord. Ils ne connaissent pas.
On travaille par numéro.
Et alors, vous, personnellement, vous êtes là tous les vendredis?
Nous, on est tous les vendredis,
On est tous les vendredis, mais une fois par mois, on fait les colis. Par mois.
Alors, parmi ces colis, on a les produits frais qu'on vient de découvrir, mais on a aussi les produits surgelés ou encore des fruits et légumes. Voici un exemple de colis de fruits et légumes.
Des pommes de terre, de la salade, un chou-fleur, des pommes, de la ciboulette, des carottes.
Et ce colis, il est prêt?
Il est fini.
Maintenant que tout est prêt, les colis vont pouvoir être livrés. Mais pour les bénévoles, pas de quoi se reposer. Les colis sont déposés, mais les familles toujours dans le besoin. Alors dans une semaine, il faudra recommencer.
Loire Mag, ça bouge dans la Loire.
Pour bouger, ça bouge au Planétarium de Saint-Étienne, lieu où vous vous rendrez peut-être avec vos enfants ou petits-enfants durant ces très proches vacances scolaires. Je vous propose une plongée dans l'espace avec notre reporter Clément Bonsigneur. Suivons le guide avec Clément, c'est Cyril Fernandez, directeur du Planétarium.
Capitaine Vladimir Tchekhov, journal de bord du Polaris. Nous partons observer les étranges lumières vertes qui apparaissent parfois au-dessus des pôles. Les aurores polaires.
Le planétarium existe depuis 1993 et a connu différentes évolutions techniques qui permettent aujourd'hui à son public, à ses publics, de bénéficier d'une image toujours à la pointe de ce qui peut se faire en France et à l'échelle mondiale. Le planétarium a une capacité de 82 places pour chaque séance. Les séances durent entre 1h et 1h15 pour le grand public et autour de 1h30 pour les groupes et notamment les scolaires. En temps normal, bien sûr, on va oublier ces deux dernières années, c'est environ 30 000 visiteurs par an, dont 10% de scolaires.
Un format de projection aussi qui est assez intéressant, puisqu'on ne se contente pas de s'asseoir finalement et de regarder, enfin pour la première partie, si évidemment. Pour la deuxième, voilà, il y a vraiment de l'interaction.
Oui, c'est ce qui fait la particularité du planétarium. Le public qui en sort est toujours agréablement surpris parce qu'on n'y voit pas qu'une projection d'un film sous un format déjà spécial, hein, puisqu'on est en immersion avec l'écran hémisphérique à 360 degrés, avec éventuellement aussi de la projection en relief. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel le planétarium a été novateur en 2012. Et donc, dans la deuxième partie, il y a une interaction avec un médiateur scientifique qui utilise toutes les capacités du planétarium pour rendre encore plus réaliste l'observation du ciel, mais aussi éventuellement le voyage dans l'espace et se prendre pour un astronaute, notamment Thomas Pesquet, et pourquoi pas aller plus loin au-delà de la galaxie. Ouais.
On regarde vers le ciel avec les pieds bien sur Terre au planétarium de Saint-Étienne, avec, vous l'avez dit, un écran à 360 degrés, des projections en relief. C'est de la technique tout ça finalement, Cyril Fernandez.
Oui, 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 et on bénéficie d'un partenaire historique du planétarium qui est la société RSA Cosmos qui est située à Sorbier, qui est aujourd'hui leader à l'international sur le marché des planétariums. Et c'est vrai que dès qu'on peut bénéficier de ce travail, de mise en avant des nouvelles possibilités du système, on en profite en premier, oui.
Il vous envoie quelquefois des choses à tester aussi ?
Ah mais c'est même plus que ça, on est vraiment des bêta-testeurs des avancées de leurs travaux avec pas mal de choses que nous voyons en avant-première avant que les autres planétariums ne le voient. Oui, oui, oui.
Est-ce qu'on a des films consacrés aux adultes et des films consacrés aux enfants ou est-ce que allez, tous les films qu'on peut voir sont adaptés à tous les publics ?
Alors, il n'y a aucune vulgarité, il n'y a aucune image choquante dans les films de planétarium. Après, c'est le degré de compréhension qui va jouer. Et on va dire qu'on a plutôt deux styles d'approche, soit l'approche documentaire, soit l'approche fiction. Donc c'est vrai que les enfants, dès qu'on met une petite histoire avec des personnages, une aventure, ça leur plaît forcément. Mais les documentaires sont aussi très riches d'un point de vue visuel et c'est une autre manière d'aborder les thèmes qu'on souhaite présenter à notre public.
De quoi on parle dans les films justement qui sont projetés au planétarium ? La programmation change évidemment. On pourrait se dire que depuis 1993, bon, mais l'univers est infini, on n'a pas fait le tour du système solaire encore.
Et puis on en découvre tout le temps de nouvelles informations hein, au sujet de aussi bien ce qui est proche de nous, comme vous dites, le système solaire, ou de ce qui est un peu plus éloigné, la thématique des étoiles, leurs évolutions, ou même la dynamique de l'univers, l'histoire des galaxies, la matière, de quoi les composer, comment tout cela s'anime depuis quelques milliards d'années que cela existe. Donc nous, on vulgarise, bien sûr, on aborde des sujets sérieux, mais on les aborde de manière compréhensible et parfois, si on peut se le permettre, de manière ludique. Et tout, aujourd'hui, on peut dire qu'on est relativement bien complet au niveau des thèmes qu'on aborde à travers nos différents films.
Ces différences, vous les cultivez ? C'est même totalement nouveau là, pour le planétarium, c'est une pièce de théâtre.
Oui, c'est ça. On accueille en ce moment en résidence la compagnie Les Montures du Temps et on travaille en ce moment avec eux sur la mise en image, de la mise en scène de leurs pièces pour, quelque part, l'augmenter en réalité de planétarium. Et comme la thématique, c'est l'histoire de l'univers, la création des planètes et l'apparition de la vie de l'homme sur Terre, l'apparition de l'homme sur Terre, on a lancer une proposition pour les scolaires au mois de juin avec à la fois pour l'école primaire et les collèges et éventuellement les lycées, deux représentations. Et il faut savoir qu'on refera cette représentation à l'occasion de la Nuit des Étoiles au mois d'août.
Comment s'appelle le spectacle déjà qui sera proposé ?
Alors, c'est de la cuisine céleste, ça s'appelle « Des étoiles dans le pudding ».
Regardez, une nouvelle étoile filante !
On peut remercier l'atmosphère qui nous permet de la voir ? Et nous protège.
À nous de savoir les protéger.
Loire Mag, visage de la Loire.
Fin février, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, en l'occurrence celle de Saint-Étienne, voyait sa nouvelle présidente intervenir auprès de jeunes en formation à l'ASS. C'est Florence Boudoussier qui vient donc de succéder à Christine Coé. Et en assurant cette formation, elle montre l'accent qu'elle a décidé de mettre sur l'un de ses objectifs majeurs, développer la formation des jeunes partout où ils se trouvent et changer les regards et les attitudes. Une correspondance de Philippe Loi.
Florence Boudoussier est la nouvelle présidente de la LICRA Saint-Étienne. Cette section de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme souhaite pérenniser et développer ses actions avec trois antennes dans le département de la Loire, Roanne, Montbrison et Saint-Étienne.
C'est une association qui est née en 1927. un fort passé qui s'est étendu. Donc elle est née en France, mais elle a des antennes, enfin des lycras dans d'autres pays, que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Alors de façon générale, la lycra donc a des missions, on va dire, en préventif, notamment les commissions éducation. Il y a des commissions également sport, il y a des commissions juridiques. Et c'est bien spécifique à Saint-Étienne. On a une commission santé. Et à Saint-Étienne, cette commission santé a notamment créé un diplôme universitaire à l'Université de Saint-Étienne sur santé et lutte contre les discriminations. Dans le milieu de la santé, il y a des discriminations, que ce soit soignant envers soigné ou soigné envers soignant. On sentait que les soignants eux-mêmes avaient ce besoin, étaient souvent démunis, donc ils avaient besoin d'être épaulés. D'une part, déjà de comprendre les situations et puis savoir vers qui se tourner lorsqu'il y a une difficulté particulière.
D'autres actions sur l'antenne de Saint-Étienne ?
Oui, notamment la commission juridique. Lorsqu'il y a des agressions, les victimes ou les personnes qui sont proches des victimes, ce ne sont pas toujours les victimes qui s'adressent directement à nous, qui peuvent s'adresser à la LICRA pour être défendues et être conseillées. Alors, à Saint-Étienne, il s'agit plus d'agressions racistes que antisémites. Mais on a encore eu dernièrement, d'ailleurs, une demande de conseil pour un fait d'agression et de harcèlement raciste.
À quoi ressemble justement l'antenne de Saint-Étienne ?
On n'est pas très nombreux. On est une trentaine de membres, je dirais, à jour de cotisation. Et sur les 30 membres véritablement, je dirais, actifs, ça se compte pas sur les deux doigts de la main. Ce serait plus proche d'une main que de deux.
Autre commission, l'éducation. On écoute la nouvelle présidente de la LICRA, Florence Bouducier.
On ne peut pas répondre en fait à toutes les demandes dans les établissements, malheureusement. Et ça, c'est un crève-cœur. Et puis, l'autre pan que je souhaiterais développer, c'est notamment en primaire. Déjà, de pouvoir répondre aux demandes des établissements dans lesquels on intervient depuis plusieurs années. J'ai du mal à dire, ben, on ne peut pas prendre toutes les classes, etc. Mais de là à développer autre chose, il faudrait vraiment être plus nombreux.
Florence Bouducier est donc la nouvelle présidente de la LICRA de Saint-Étienne depuis 6 mois maintenant. Son parcours.
Alors déjà, pour être sensibilisée à ça, par l'action de mes grands-parents pendant la dernière guerre, où ils étaient résistants, mon grand-père déporté, j'étais sensibilisée tout enfant aux discriminations et notamment à l'antisémitisme. Et de façon générale, à la maison, l'accueil des étrangers, c'était naturel. Et en plus, j'ai 4 grands-parents avec 4 religions différentes. Donc déjà, bon, j'ai été éduquée dans ce bain-là. Et c'est vrai que je souhaitais depuis très très longtemps pouvoir être active dans une association. Bon, j'ai attendu d'être un peu plus libérée sur le plan familial, que les enfants soient plus grands, etc. Et puis surtout, quand Christine Coé a pris la présidence de la LICRA Saint-Étienne, connaissant bien Christine, étant une amie, mais en plus j'ai eu la chance de la connaître de mieux en mieux, justement. Donc j'ai pris ma carte en 2011. Et j'ai pris ma carte en ayant comme objectif de transmettre, d'aller dans les établissements scolaires. Donc très très vite, ça m'a fait un petit peu peur, mais elle m'a donné confiance et elle m'a donné la responsabilité de la commission éducation. Et puis petit à petit, voilà, j'ai pris ma place. Et puis là, dernièrement, pour que la section continue à se développer, continue à vivre déjà, j'ai accepté de prendre la présidence.
Et ses objectifs ?
Déjà de bien asseoir et de bien assurer la survie de la section, en développant notamment le nombre d'adhérents qui nous permettent justement de développer nos actions, que ce soit, donc je viens d'en parler dans le cadre de la commission éducation, mais également de la commission culture et communication. On a divers projets en tête, mais comme ça reste des projets, j'attendrai quelques temps pour les dévoiler, qu'ils soient un petit peu plus avancés. Et puis la commission santé a également elle-même des projets. Les projets ne manquent pas, mais pour l'instant, ils sont dans la tête et on espère en développer quand même un certain nombre. Au niveau national, on peut consulter le site www.licra.org. Et nous, particulièrement, pour nous contacter, donc on a une adresse mail, contact.stetienne, c'est-à-dire stetienne, tout attaché, @licra.org.
C'était le parcours, la présentation et les actions de Florence Bouducier, la nouvelle présidente de la LICRA Saint-Étienne, cette section de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme.
Loire Mag, le podcast sur RCF. Des témoignages et des rencontres avec des Ligériens pour entrer au cœur des missions du département.